France Culture.
Vous m'entendez ?
Oui.
Si vous voulez, on peut faire un petit test de voix. Ça nous permet de régler un peu le son.
Oui, oui, si vous voulez, bien sûr, avec plaisir. Messieurs de l'Académie, vous me faites l'honneur de m'inviter à présenter à cette Académie un compte rendu sur ma vie antérieure de singe.
France Culture.
Je ne puis hélas déférer à cette invitation au sens où vous l'entendez.
Le Book Club.
Ça vous va ?
Oui, très bien.
Bonjour.
Marie,
bonjour.
Enchantée.
Salut, dans la bibliothèque de Raphaël.
Est-ce que vous avez fait des tests micro ?
Oui.
Ok, c'est tout bon.
Marie Richeux.
Allez.
Dans la première chanson de votre dernier disque, Raphaël, une chanson qui s'appelle « L'espoir », il est question d'un être. Jamais connu quelqu'un d'aussi beau, chantez-vous. Et le peu de choses que l'on sait de cette personne, c'est qu'elle n'a pas de livre sur son étagère et qu'elle a tout à fait droit au bonheur. C'est entre autres cette mention de l'étagère qui nous a rendus curieuses et curieux des vôtres. Vous racontez souvent avoir grandi dans une famille où les livres tenaient une place importante et étaient liés à une certaine idée de la réussite. Réussite et bonheur étant de toute évidence des choses différentes. Vous racontez qu'il vous a fallu un peu de temps pour imaginer pouvoir en écrire un jour, de livres. Ça fait 25 ans que vous sortez des disques, Raphaël, et au milieu, ces dernières années, 3 livres sont parus. 2 recueils de nouvelles dont imprimé du Goncourt et un roman Avalanche. Comme à chacun de nos invités, on a demandé, pour nous aider à déballer votre bibliothèque, de choisir 5 textes étapes. De Franz Kafka, Georges Perec, Natalia Ginzburg, Joyce Carol Oates, Mikhail Bulgakov, vous avez choisi de ne lire que les débuts des textes. On pourrait dire que c'est un choix comme un autre. On peut aussi penser que c'est une façon de se méfier de la fin, ou des fins, ou de la mort, ou de la perte qui hante vos textes, comme vos lectures. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Merci.
Merci d'avoir accepté de déballer votre bibliothèque.
Ça me fait très plaisir.
Pour le Book Club de France Culture. Au début, on fait une sorte de visite, elle va être un peu virtuelle aujourd'hui, dans votre bibliothèque. Il y a un de vos personnages dans Avalanche qui dit qu'il n'a plus de route directe vers les souvenirs, mais on va faire une route directe vers les souvenirs. Est-ce que vous avez grandi donc dans un endroit où il y avait des livres et ça ressemblait à quoi ?
Oui, j'ai grandi dans un endroit où il y avait des livres. C'était chez mes parents, qui habitent toujours dans le même endroit. Donc le chemin vers mes souvenirs n'est pas très difficile. Okay. Je peux encore prendre mon vélo, aller inspecter si un livre a changé ou pas. Dans le salon, il y a une grande bibliothèque, comme tout un mur avec des livres partout, dont une grande partie n'a pas bougé depuis, je sais pas, 30 ans, quoi. J'ai l'impression dont un dictionnaire historique des rues de Paris... qui date de 1982.
C'est précis.
Ouais, quelques biographies de Henri III.
Pourquoi vous savez 82 ?
Parce que je me rappelle qu'on l'avait acheté pour l'anniversaire de mon père. Mmh. Et que ça devait être à peu près... C'est peut-être 83, c'est peut-être 84. Mais bon, je dirais 82 parce que c'est un souvenir un peu marécageux. Et qu'après 83, je suis sorti du marécage. En règle générale, j'ai des souvenirs un peu plus précis. voilà, il y avait plein de livres. J'en piochais assez peu parce que c'était...
Ça vous intéressait ?
Oui, ça m'intéressait. C'était un grand mur, assez impénétrable, avec des tas de petits signes auxquels j'avais pas vraiment accès, quoi. Il y avait pas beaucoup de livres pour moi dedans. Il y avait un livre qui m'intéressait avec des gravures érotiques de Mirabeau. Alors c'est celui-là que j'allais piquer parce qu'il y avait des scènes de cul, quoi, qui m'intéressaient. Mais sinon, je le remettais en place, voilà.
Ni vu ni connu.
C'est très intellectuel comme veille à l'érotisme.
Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez souvenir d'avoir trouvé un jour des livres pour vous ? Puisque vous dites, il n'y avait pas de livres pour moi. Ça commence quand les livres pour vous alors ?
Je sais pas, je crois qu'on m'avait offert un Robinson Crusoe. C'était sûrement une version enfantine de Robinson Crusoe. Je pense pas que c'était l'original. Et ça m'avait beaucoup plu, quoi. Et ensuite, il y avait un autre... beaucoup plus compliqué, un tournier qui reprenait le Robinson Crusoe dans les limbes du Pacifique, je crois que ça s'appelait comme ça. Mmh. Et j'étais resté un peu, c'était un peu compliqué pour moi. Mais petit, vers 9-10 ans, comme ça, il y a Robinson Crusoe, probablement le premier livre que j'ai lu.
Donc une île déserte, ouais, et exactement. Quelqu'un qui a tout à construire.
Oui, exactement, un naufragé.
Vous racontez souvent que les livres avaient une place importante dans cette éducation. Mmh. Ça a bâti quoi comme rapport avec la littérature pour vous, cette place-là ?
C'était comme une chose importante, comme un objet de rêve et d'intelligence. Je me souviens, au début de l'été, la plupart du temps, à partir de la 6e ou peut-être même du CM2, j'allais avec mon père dans une librairie et puis on regardait, il me disait, tiens, il prenait 1, 2, 3, 4, 5 livres, il me disait, bah, lis ça cet été. Et ensuite, je me débrouillais avec. Souvent, je faisais le malin, je lisais les 30 premières pages et je m'arrêtais là, quoi. Mais c'était quand même ça me plaisait, c'était intéressant.
Donc c'était une manière de vous mettre sur la piste de certains livres, quoi. Ouais, pour lui.
Ouais, je pense que c'était. Puis mes parents sont lecteurs tous les deux. Je les ai toujours vus lire des livres tout le temps, quoi. Enfin, il me semble. Il me semble, et c'est quelque chose que j'ai en moi. Moi, je lis tous les jours. L'idée d'une journée parfaite, c'est se mettre dans un canapé comme ça. Hier, par exemple, il faisait un temps un peu embrouillé, hein, comme souvent en fin novembre, quoi. Et j'avais mon petit bébé qui s'est endormi sur moi, et j'ai pris les Hauts de Hurlevent, là, et que j'avais pas relu depuis très longtemps, et j'ai fait d'un coup une centaine de pages. Je me suis dit, c'est un peu une journée parfaite.
Ouais. C'est clair, ça ressemble. Vous citez les sœurs Brontë, on ira tout à l'heure dans les choix que vous avez choisis, mais là, on vous prend plutôt fin d'adolescence. Comment ça se passe pour vous, la vie de lecteur, à la sortie de l'adolescence, le moment de l'âge adulte? Vous avez quoi comme rapport au livre et à la lecture? Est-ce que ça bouge?
Est-ce que ça bouge? Moi, j'avais une culture un peu lycéenne, comme ça, et j'ai une prof en seconde qui était très, qui m'a fait découvrir un peu Dostoïevski, des auteurs russes, et ça me plaisait beaucoup de sortir de d'Ulysse dans la vallée, de Balzac, qui me paraissaient être des choses plus académiques aujourd'hui, je pense. Par exemple, je sais qu'on avait étudié Madame Bovary, l'éducation sentimentale, et je pense que je relirais l'éducation sentimentale, je serais bouleversé par la beauté, mais à l'époque, souvent, je pense que tout le monde dit ça, mais souvent on lit des choses qui nécessitent une certaine maturité, quoi. Il faut avoir fait un petit tour du cadran pour être ému par l'éducation sentimentale, par exemple. Quand on a 17 ans, on a plus envie d'une intensité fiévreuse de Dostoïevski ou de Kafka, d'ailleurs, par exemple. Et moi, j'ai plutôt gardé mes goûts d'adolescent, mais par contre, il y a beaucoup de livres qui étaient un petit peu dont j'arrivais pas à pénétrer le mystère, et en vieillissant, évidemment, j'y parviens enfin.
Je citais ce portrait comme ça qui arrive en ouverture d'album Une autre vie, juste une silhouette, et on peut dire plein de choses à propos de quelqu'un. Et cette chanson, elle dit, il ou elle, d'ailleurs, n'avait pas de livre sur son étagère.
C'est l'idée de quelqu'un comme ça qui est qui a pas de maître, qui a pas de référence, qui a juste un accès direct peut-être au mystère ou à la beauté sans avoir besoin d'utiliser les mots des autres. C'était ça. Alors moi, j'ai beaucoup de livres sur mon étagère. J'ai même passé une grande partie de ma vie à me déplacer avec des valises de livres. Quand je partais en vacances, j'avais 40 livres avec moi. Alors maintenant, j'ai une tablette, c'est absolument génial. Ça a changé ma vie. Mais ça peut être aussi un encombrement, la lecture, peut-être.
Mais donc il y a l'idée comme
peut-être pas ça au bon endroit.
Bah si, alors là, mais évidemment. Si. Non, mais c'est l'idée qu'on puisse être aussi allégé des lettres, allégé du poids de la littérature, allégé des maîtres, par exemple. C'est quelque chose d'enviable pour vous. Parce que tout de suite après, il est question d'avoir droit au bonheur. Et je me suis dit, quand même, dans une même chanson, ça dit quelque chose comme une sorte de.
Je pense que
désir de voyager léger, quoi.
Alors, on peut l'interpréter comme ça. Moi, dans ma chanson, c'est plutôt quelqu'un qui a comme ça, qui est quelqu'un de très brut, quoi, voilà, et quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est plus sauvage et moins policé par le monde et par son éducation que je ne l'ai été, c'est tout. Mais moi, j'aime bien quand même être bien élevé, et j'aime bien
avoir été policé par.
Et j'aime bien avoir été policé comme un bon vieux caillou, voilà, sur lequel on peut faire des ricochets maintenant, beaucoup.
Aujourd'hui, en dehors des siestes délicieuses avec un bébé et les Hauts du Hurlevent, la place de la lecture, c'est quoi dans votre vie quotidienne, Raphaël?
Je dirais au moins une heure par jour, quelque chose comme ça.
Même en tournée?
Tout le temps. Même en tournée, tout le temps. Je lis plein de livres en même temps parce que j'aime bien passer d'un univers à un autre. Et de temps en temps, il y en a un qui m'accroche et que je finis. Et quand je finis un auteur, souvent, j'aime bien explorer ensuite plusieurs livres de cet auteur. Quand j'ai vraiment aimé un livre, j'ai eu ça, par exemple, avec des classiques, mais aussi là récemment avec Joyce Carol Oates, avec John Didion, avec Philip Roth. Alors, c'est des écrivains un peu graphomanes, donc il y a de quoi passer un peu de temps. Je pense que je lis moins vite que Joyce Carol Oates n'écrit, mais c'est fantastique d'avoir accès comme ça à l'âme de certaines personnes. On commence à les connaître intimement, on comprend leurs obsessions, on comprend leur langage, presque leur tournure de phrase. Ça devient, c'est une connaissance intime de certaines personnes qu'on peut pas avoir autrement, je pense, quoi.
Je disais 25 ans de parution musicale et ces dernières années, 3 livres. Est-ce que ça raconte quelque chose du temps qu'il a fallu pour arriver à cet objet-là ou pas nécessairement?
peut-être. Moi, mon premier amour, c'est la musique. Je me suis, à 10 ans, je me voyais être musicien, chanteur. J'aimais ça, j'aime toujours ça. Quelque chose qui est merveilleux. Après, c'est mon premier amour. C'est vraiment ce que je voulais être. Après, j'avais pas imaginé d'écrire des livres. En fait, c'était même pas quelque chose que je m'étais formulé. Ensuite, j'ai commencé à écrire des petites histoires. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et de la nouvelle, je suis arrivé au roman. Et ensuite, maintenant, ça devient plus compliqué parce que je sens que c'est un besoin. Et en même temps, j'ai pas les armes... peut-être comme je les ai en musique, où c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est jamais facile, tout est recommencé à zéro et tout est difficile et tout ça. Mais je dirais que j'ai quand même une grammaire qui est bien établie en musique, alors qu'en dans les livres, c'est encore peut-être un peu expérimental encore.
C'est extrêmement différent pour vous de vous lancer dans l'écriture musicale, que ce soit les paroles et la musique, et la pratique de l'écriture pour les nouvelles et les romans.
Assez différent, c'est le rythme est différent, quoi. La musique, on peut travailler une demi-heure, soit il se passe quelque chose, soit on passe à autre chose et on réessaye plus tard dans la journée ou à un autre moment. C'est juste, il faut arriver à capturer un petit moment d'innocence. Il s'agit presque que de ça dans la musique, quoi, de retrouver un état des vertus de l'innocence, quoi. Un moment où on réfléchit pas à grand chose, où ça veut pas dire qu'on fait de la musique simpliste ou idiote, mais ça veut dire juste d'arriver à une forme très, très, presque très naïve de parce qu'on fait pas, moi je fais pas de la musique savante, quoi. Donc c'est de retrouver cette innocence, quoi. Et en même temps que ça corresponde à quelqu'un de mon âge et à une musique que je trouve belle et émouvante profondément. Alors que, donc c'est plutôt capturer par surprise des moments de légèreté, quoi. Et ce qui est très agréable quand même comme but dans la vie. Cultiver la légèreté, tu vois. Mais la légèreté, c'est une conquête. C'est pas non plus quelque chose qui se donne si facilement.
Mais elle peut exister en littérature.
Alors, pour moi, c'est plus compliqué, la littérature.
Et la légèreté, vous voulez dire?
Il peut y avoir de la légèreté en littérature, mais je dirais que je l'ai eu sur mon premier recueil de nouvelles où c'était très léger. Je me dis, j'ai écrit des petites histoires, je sais pas à qui ça s'adresse, je m'en fiche. Et je m'en fiche, c'est pas pour être cavalier, non. Mais je veux dire, je savais même pas si ça sortirait. J'avais le plaisir d'écrire des petites histoires. Et ensuite, j'ai fait ça avec innocence. Et après, j'ai eu un très bel accueil. Et puis ensuite, j'ai écrit un deuxième livre de nouvelles, puis un roman, et j'ai souffert. J'ai souffert. Ça m'a pris beaucoup de temps et c'est beaucoup de constance par rapport à l'écriture de la musique, quoi. Et la musique, en fait, c'est comme si on écrivait une petite nouvelle chaque jour, ou un fragment de quelque chose, ou une pensée, alors qu'un livre, on vit avec des personnages pendant un an, deux ans, trois ans, tous les jours, dans une solitude écrasante. La musique, on est tout le temps avec des... Moi, j'écris tout seul, mais par moments, j'écris avec une personne, avec deux personnes. Quand je suis en studio, on peut se retrouver à quatre à co-signer un morceau. C'est un travail de groupe, quoi. C'est comme un film. C'est un projet en commun. Et ça, c'est très sympa, c'est très joyeux. La littérature, c'est totalement solitaire. Et on est un peu à côté de la vie, quoi, souvent. Je crois que c'est Kafka qui disait ça. On est souvent un peu à côté de la vie quand on écrit. Et je pense que chez tous ces grands écrivains là, que j'adore, de Philip Roth à Joyce Carol Oates, à d'autres, ils finissent un livre. Et puis, au moment où ils l'ont fini, ils se mettent à courir pour aller en commencer un autre dans la minute, quoi.
Ça marche pas toujours.
Ça marche pas toujours, et quand ça marche pas toujours, ils se plaignent dans leur journal que ça marche pas, mais ils écrivent quand même toute la journée, quoi. C'est très étonnant, mais c'est des machines à produire, c'est merveilleux. Mais moi, je pense que je suis pas ce genre je sais que je suis pas ce genre d'écrivain-là. En tout cas, je suis pas productif comme ça du tout. Et il faut avoir quelque chose à dire, quoi. Et il faut que j'ai plein de trucs à dire, mais je procrastine un peu, voilà. J'arrive pas à être aussi constant que je le voudrais, quoi.
On va parler de vos 5 livres étapes juste après David Bowie. This girl is made of lipstick, powder and paint. Sees the pictures of herself, every magazine on every shelf. This girl is made of Bond Street, hailing cabs, lunches with executives, gleaming teeth, sip aperitifs. This girl is a lonely girl, takes the train from Paddington to Oxford Circus, buys the Daily News, but passengers don't smile at her. Oh no, don't smile at her. This girl is made of loneliness, a broken heart, for the boy that she once knew doesn't want to know her anymore. And this girl is a lonely girl, everything she wants is hers, but she can't make it with the boy she really wants to be with all the time to love. All the time.
This boy is made of envy, jealousy. He doesn't have a limousine, really wants to be a star himself. This girl, her world is made of flashlights and films. Her cares are scraps on the cutting room floor, and maids of Bond Street drive round in chauffeured cars. Maids of Bond Street, picture clothes, eyes of stars. Maids of Bond Street shouldn't have worldly cares. Maids of Bond Street shouldn't have love affairs.
Le Book Club, dans la bibliothèque de Raphaël, Marie Richeux.
Nous voilà dans le deuxième moment de votre bibliothèque, Raphaël. On vous a demandé, comme à tout le monde, de choisir 5 textes.
Oui.
Comment vous avez fait ?
Ben, je sais pas, un peu au pif, quoi. J'ai fait ça, c'est des livres que j'adore. Un livre de Bulgakov qui est peut-être un de mes livres préférés au monde. Je peux les citer tous maintenant.
Oui,
là,
oui,
là,
oui. Ouais.
Le Maître et Marguerite, quoi. Voilà, ce que j'ai dû découvrir adolescent, qui me fascine toujours autant, que j'adore, qui est l'irruption du fantastique et de la magie dans le monde stalinien de l'URSS. Kafka, le compte rendu pour une académie. Les nouvelles de Kafka sont magnifiques, et celle-là, je me suis dit, comme c'est des petits extraits, c'est bien de lire des toute petite nouvelle très courte. Le compte rendu pour une académie, c'est une nouvelle qui doit faire 10 pages ou 5 pages, comme ça, des textes magnifiques, très mystérieux. Presque tout David Lynch est inclus dans ce texte de Peter le Rouge, le singe qui raconte son ancienne vie de singe à ses collègues humains, quoi. Voilà. Bon, on peut l'interpréter de tellement de façons.
J'ai mentionné que vous avez choisi de lire les débuts des textes.
Oui.
On peut dire, c'est un choix comme un autre, pas de commentaire à faire. Qu'est-ce que ça peut raconter de vous, en tant que lecteur ?
Peut-être que j'ai pas lu la fin des livres, que je m'arrête.
Et on a complètement le droit. C'est tout à fait autorisé.
Peut-être ça. Disons que le compte-rendu pour une académie ou le texte de Natalia Ginzburg, c'est des textes très courts, c'est des textes de 4 pages. Donc,
Autant commencer
par le début. Et les autres sont... J'ai essayé en fait de trouver des choses qui ressemblaient à des toutes petites nouvelles, quoi, qui soient le texte de Joyce Carol Oates, pareil, c'est comme un long poème qui débute. Et puis j'adore les débuts des livres, je trouve ça magnifique. Quoi.
Je me suis dit que vous adoriez les débuts des livres.
Quoique le livre de Joyce Carol Oates commence par la fin, presque, puisque c'est la mort qui arrive pour frapper à la porte de Marilyn Monroe. Je dirais que, je pense, pour un écrivain, la première page ou les deux, trois premières pages, ça donne tout. Quoi. Ensuite, il n'y a plus qu'à dérouler le fil. À mon avis, c'est ce qui est le plus dur. Une fois qu'on a trouvé la voix, le ton du personnage, le ton du livre, les choses, c'est juste suivre un plan. Quoi. Mais arriver à avoir un ton fidèle comme ça qu'on va pouvoir tenir. Et là, ces livres-là, ils ont des tons inouïs. Les premières pages, la puissance de ces premières pages, là, en tout cas, le Bulgakov ou l'autre, là, le Georges Perec, là. Il y a deux textes qui sont connectés, celui de Perec et celui de Kafka. Je pense qu'ils sont quand même très connectés.
Alors, vous disiez que vous vouliez peut-être commencer par Kafka. On y va ?
On y va.
Kafka, un compte rendu pour une académie, 1917. Vous avez choisi la traduction de la Pléiade d'Alexandre Vialat, je crois, puis de Jean-Pierre Lefebvre. Quand est-ce que vous rencontrez Kafka ? À quel moment ? Donc on a dit, grande bibliothèque familiale, au début pas grand-chose ne vous intéresse, sauf des gravures érotiques de Mirabeau, et puis une professeure dans la scolarité importante qui vous ouvre à la littérature russe, à Dostoïevski. Kafka, ça arrive quand dans tout ça ?
Kafka, ça arrive un peu plus tôt. Je pense que c'est une lecture d'été de La Métamorphose, un des livres que mon père me donne, ce personnage fantastique très... qui plaît même aux enfants, quoi. Je pense que à 12-13 ans, on peut lire La Métamorphose et le comprendre et l'aimer, pas comme une fantaisie sur les insectes, mais comme un récit fantastique de transformation. C'est vraiment incroyable ce que ça évoque. Et je dirais que c'est ça, c'est la Métamorphose. Et ensuite, j'ai dû lire les autres livres petit à petit. Ça se lit doucement. C'est une œuvre compliquée, vénéneuse, très... peut-être, mais j'ai l'impression qu'elle était toujours, que ça faisait toujours un peu partie de moi, quoi. Il y a quelque chose quand même de très proche, même de l'esprit familial, d'un truc comme ça. Je sens.
De l'esprit familial, de votre famille ?
Ouais, de ma famille, ouais, exactement. J'ai l'impression.
En quoi ?
Je sais pas, c'est quand même dans une culture très juive ashkénaze, je dirais, le truc de Kafka. C'est marqué presque au fer rouge à chaque page, quoi. Et donc, en ça, j'ai l'impression que c'est très proche de la famille dans laquelle j'ai grandi.
Comment est-ce que cette culture, elle vous a été transmise ?
Elle n'est pas vraiment transmise, elle fait partie de C'est plus un esprit, une manière de rire des choses, une manière de la dérision, un rapport à la loi, un rapport, je sais pas, à l'exil, à l'exode. Moi, mes deux parents, ils sont nés dans des pays étrangers parce qu'ils ont dû fuir, ou ils sont arrivés, les deux ont connu quand même des fuites ou des exils. C'est pas loin, c'est mes parents, quoi. Je dirais que je sais pas. J'ai l'impression qu'en tout cas il y a une intimité avec Kafka. Quoi.
Par exemple, une des transmissions, ça pourrait dire tiens, tu devrais lire La Métamorphose cet été. Ça peut être une forme de transmission. Mais tout à l'heure vous disiez aussi.
Ça peut être une forme de transmission, ouais. Tout à fait.
Tout à l'heure vous disiez en décrivant la bibliothèque.
Ça l'était, bien sûr.
Ouais. Je regardais la bibliothèque familiale et c'était comme des signes. Au début, auquel je comprenais rien, et je me souviens vous avoir entendu parler de l'alphabet hébreu aussi dans une sorte, évidemment, dans un premier rapport aux signes et puis ensuite au déchiffrement. Pour continuer à parler de la transmission de cette culture-là, est-ce que, par exemple, la langue hébreu et votre rapport à cette langue-là, elle a quoi comme place dans votre parcours ?
Moi, je ne parle pas l'hébreu, quoi. Je le lis, mais je le comprends très, 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 très peu.
Mais vous le lisez ?
Oui, je le lis, mais
c'est
je connais juste l'alphabet, quoi. C'est rien. Je le lis comme un enfant, on le lit, quoi. C'est toujours un... Et je peux étudier quelques textes parce que ça m'intéresse d'étudier quelques textes et ensuite je regarde les traductions, mais je survole un peu, quoi, voilà. Je peux pas en parler avec
Vous faites beaucoup un portrait de vous en dilettante, Raphaël.
Je dirais pas que je suis dilettante, je travaille beaucoup, mais j'ai plus une culture généraliste et je survole les choses, quoi. Je dirais que je suis pas un spécialiste des choses, quoi. J'aime pas, vous dites que j'aime bien les débuts, c'est peut-être ça, j'aime bien les débuts, c'est vrai. J'aime bien apprendre des choses et ensuite je passe à autre chose. J'aime bien faire les choses avec innocence. Je pourrais pas passer ma vie à faire tout le temps la même chose, à travailler et ensuite, surtout, des fois je travaille beaucoup et puis j'oublie. Par exemple, je sais pas, le piano, j'ai travaillé tellement de morceaux classiques que j'arrivais à jouer à peu près bien. Et ensuite, si j'essaye de les rejouer, il reste plus rien. C'est terrible, quoi. Et des fois, on se dit, merde, quoi. À quoi bon, tout ce temps que j'ai passé. Et alors ensuite, la mémoire des terminaisons nerveuses agit. Les doigts se remettent un peu comme ça, en mouvement tout seul, comme une araignée qui grimpe le long d'un mur, quoi. C'est assez marrant, mais ça revient.
On vous écoute pour un extrait de Un compte rendu pour une académie, Franz Kafka.
Messieurs de l'Académie, vous me faites l'honneur de m'inviter à présenter à cette Académie un compte-rendu sur ma vie antérieure de singe. Je ne puis hélas déférer à cette invitation au sens où vous l'entendez. Près de 5 années me séparent de ma condition de singe. Laps de temps peut être court à la mesure du calendrier, mais infiniment long à parcourir au galop, comme je l'ai fait, accompagné sur certaines portions du parcours par des hommes excellents et des conseils qui ne l'étaient pas moins, par des applaudissements et des musiques d'orchestre, mais finalement seul, car toutes ces compagnies se tenaient pour rester dans la même image, loin des barrières. Cet exploit eût été impossible si j'avais entendu tenir obstinément à mes origines, aux souvenirs de jeunesse. Renoncer précisément à toute obstination, telle était la règle suprême que je m'étais imposée. Singe libre que j'étais, je me soumis à ce joug. Mais du même coup, les souvenirs, de leur côté, se fermèrent à moi de plus en plus. Si d'emblée le retour, à condition que les hommes le voulussent, m'était aussi largement ouvert que le porche formé par le ciel au-dessus de la terre, ce porche devint de plus en plus bas et étroit à mesure que je progressais à coups de fouet dans mon évolution. Je me sentais plus à mon aise et mieux entouré dans le monde des hommes. La tempête que mon passé soufflait derrière moi s'apaisait. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un filet d'air qui me rafraîchit les talons. Et le trou au loin par lequel il arrive et par lequel je suis arrivé jadis moi-même est devenu si petit qu'il me faudrait m'arracher la peau du corps pour le franchir, à supposer que mes forces et ma volonté suffisent pour retourner jusque-là. Le porche formé par le ciel au-dessus de la terre, incroyable, quelle beauté. Ce porche devint de plus en plus bas et étroit à mesure, mais c'est extraordinaire.
Il ne peut pas revenir d'où il vient.
Non.
Ce porche qui se tient de plus en plus bas et le trou des origines est de plus en plus loin et de plus en plus inatteignable. Et c'était en début d'émission l'idée dans votre roman Avalanche, Raphaël, que...
Il faudrait m'arracher la peau du corps pour le franchir.
Ça. Ouais. J'ai plus de chemin direct vers les souvenirs, dit un des personnages de votre dernier roman, Avalanche. Mais il y a comme ça, dans ce texte de Kafka, quelque chose qui laisse le passé derrière, quoi.
c'est écrit dans un contexte très particulier, qui est Prague, 1917, et c'est une métaphore, je pense, de l'assimilation et du judaïsme. Je crois que c'est un peu ça, sa condition de singe, c'est ça. À chaque fois, les métaphores qu'il utilise pour parler de sujets plus sociaux, finalement, sont fantastiques, quoi. Toujours l'intervention du fantastique et du merveilleux, ça me plaît beaucoup. Extraordinaire.
Vous aviez envie de lier ce texte-là avec un texte de Pérec?
Pérec et Kafka sont liés pour moi, parce que ce livre de Pérec, Un homme qui dort, je crois qu'il l'a conçu comme un hommage au journal de Kafka.
Journal que vous lisez, ce que vous avez dit tout à l'heure, je lis à la fois les romans, puis j'ai aussi envie d'aller voir du côté des correspondances, aussi aller voir des journaux, ça vous intéresse cette forme-là?
Oui, et puis le journal de Kafka, c'est fou. Un réservoir de beauté, d'idées, des phrases comme ça, il y en a à chaque page, quoi. Il a des phrases qui sont à la fois effrayantes, à la fois fantastiques, à la fois, on dirait, l'écriture d'un juriste, et en même temps, il y a une poésie qui surgit et qui vous fend en deux à chaque fois. C'est fou. C'est l'histoire d'un jeune homme qui doit passer un examen, qui se rend pas à son examen, qui reste dans une espèce de petite turne quelque part sous les toits à Paris, et qui regarde une expérience de désocialisation complètement, quoi, d'abandon de tout. Mmh. Moi, je me sens assez proche parce que j'ai vécu une espèce de burn-out comme ça à l'adolescence,
oui,
en terminale.
Oui, c'est ça.
Mmh. Ouais, j'ai eu un espèce de truc où trop de pression tue les études, d'une certaine manière, ou je sais pas quoi, ou peut-être une forme de dépression, ou de je sais pas quoi. Bon, bref. J'ai eu un peu, pendant quelques mois, une expérience presque psychotique, quoi, de presque immobile, presque immobile. Enfin, j'étais en mouvement, mais dans un mouvement un peu bizarre, enfin bon, c'était pas marrant. Et je trouve que ce texte de Kafka raconte un peu ce truc de assez difficile de l'adolescence, où on regarde les autres avancer, oui. On a l'impression que tout le monde est sur des rails et que nous, on l'est pas. Souvent, c'est accompagné de je sais pas, de complexes, de drogues, de trucs bon, divers et variés. Et puis, je trouve que c'est une période. Pour moi, c'était pas marrant, voilà. Cette période de terminale et ce texte qui est très très beau me fait penser un peu à cet abandon-là. Peut-être qu'il parle aussi d'autre chose, je sais pas trop.
Mais... Est-ce que vous l'avez découvert à ce moment-là ou pas du tout? C'est un texte de 1967, ouais. À ce moment que vous décrivez.
Non. C'était pas là, c'est plus tard, quoi. C'est plus tard et je l'ai découvert avec grand plaisir, quoi. J'ai dû le découvrir 10 ans plus tard, au moment où j'ai lu d'abord peut-être La vie mode d'emploi et ensuite ça m'a emmené vers les autres textes de Pérec, bon, qui sont fantastiques, absolument tout chez Pérec. Et c'est très curieux parce que tout est très différent chez Pérec. C'est vraiment, il n'y a pas un livre qui ressemble à un autre.
Et pourtant, tout est relié.
Et pourtant, tout est relié, exactement.
Qui est-ce qui vous met La vie mode d'emploi ou toute l'œuvre de Pérec dans les mains? Vous vous souvenez? Comment vous le découvrez?
Pas du tout. Pas du tout. Comment j'ai dû découvrir Pérec? J'ai l'impression que c'était un livre comme un livre très célèbre, quoi. Et donc un jour je l'ai prié, je sais pas où, mais c'est pas mes parents, je sais même pas s'ils ont lu Pérec ou s'ils sont intéressés de près. Et aujourd'hui c'est comme un, je pense souvent à lui, je me dis que sa mort si prématurée c'est une grande grande perte, quoi. Je sais pas à quel âge il est mort, 45 ans, quelque chose comme ça. Il pourrait être tout à fait en vie aujourd'hui, en fait. Il aurait quoi, 85 ans, quelque chose comme ça. Et je pense souvent à ces dizaines de livres inouïs qui ont dû être ratés, quoi. Voilà.
On vous écoute dans un extrait de Un homme qui dort.
Dès que tu fermes les yeux, l'aventure du sommeil commence. À la pénombre connue de la chambre, volume obscur coupé par des détails, où ta mémoire identifie sans peine les chemins que tu as mille fois parcourus, les retraçant à partir du carré opaque de la fenêtre, ressuscitant le lavabo à partir d'un reflet, l'étagère à partir de l'ombre un peu plus claire d'un livre, précisant la masse plus noire des vêtements suspendus, succède au bout d'un certain temps un espace à deux dimensions, comme un tableau sans limite sûre qui ferait un très petit angle avec le plan de tes yeux, comme s'il reposait, pas tout à fait perpendiculairement sur l'arête de ton nez. Tableau qui d'abord peut te sembler uniformément gris ou plutôt neutre, sans couleur ni forme, mais qui assez vite sans doute se trouve posséder au moins deux propriétés. La première est qu'il s'assombrit plus ou moins selon que tu fermes plus ou moins fortement tes paupières, comme si plus précisément la contraction exercée sur la barre de tes sourcils lorsque tu fermes les yeux avait pour effet de modifier l'inclinaison du plan par rapport à ton corps. comme si la barre de tes sourcils en formait la charnière et par conséquent, bien que cette conséquence n'ait pas l'air démontrable sinon par l'évidence, de modifier la densité ou la qualité de l'obscurité que tu perçois. La seconde est que la surface de cet espace n'est pas du tout régulière, ou plus précisément, que la distribution, la répartition de l'obscurité ne se fait pas d'une manière homogène. La zone supérieure est manifestement plus sombre, la zone inférieure qui te semble la plus proche, bien que déjà, évidemment, les notions des proches et lointains, haut et bas, devant et derrière, aient cessé d'être tout à fait précises, est d'une part beaucoup plus grise, c'est-à-dire non pas beaucoup plus neutre comme tu commences par le croire, mais bel et bien beaucoup plus blanche, et d'autre part contient ou supporte une, deux ou plusieurs sortes de sacs, de capsules, un peu l'idée que tu te fais d'une glande lacrymale par exemple, à bord mince et cilié, et à l'intérieur desquels tremblent, s'agitent, se tordent des éclairs très très blancs, parfois très minces, comme de très fines zébrures, parfois beaucoup plus gros, presque gras, comme des vers. Oui, on retourne un peu chez Kafka avec des vers.
Ouais.
Bon, c'est très beau, c'est assez géométrique. Hein. Déjà, il faut avoir une petite notion de géométrie qui...
Non, mais c'est aussi un texte sur le regard. C'est-à-dire que cet homme, ce jeune homme qui est allongé dans son lit et qui a peu à peu lâché, en tout cas pour un temps, un certain rapport à la vitalité et à l'existence, regarde beaucoup, observe beaucoup. Là, on voit bien aussi une très grande puissance de la description chez Pérec.
Incroyable.
Est-ce que c'est quelque chose que vous faites beaucoup, Raphaël?
Oui, beaucoup. Je regarde beaucoup et si je regarde pas, ça me rend malheureux. En fait, j'ai l'impression que c'est ce qui me rend léger. Déjà, je m'inspire en regardant les gens la plupart du temps, en regardant autour de moi. Et en plus, c'est ça qui rend très la compassion. Elle vient du regard, quoi. La tendresse, elle vient du regard. Mmh. Quand on regarde les gens, je trouve que ça éveille une part beaucoup plus tendre chez nous, quoi. Et quand on est fermé un peu au regard et qu'on se regarde que soi-même, alors là, il regarde un peu derrière ses paupières, hein, lui, mmh. mais quand on regarde que soi-même, on s'assèche un peu, il y a une dessiccation, je trouve. Donc ouais, j'essaye de regarder beaucoup, j'adore ça.
Ouais, c'est marrant de faire un lien si clair entre le bonheur et le regard.
Je dirais ça. Je trouve que ça ouvre vers les autres, ça... Quand on regarde vraiment les gens, on les aime, quoi, j'ai l'impression. Enfin, on a un élan de tendresse vers eux, quoi. Si on le mépris ou le côté un peu pressé comme ça arrive d'être pressé et de passer son chemin, mais en tout cas je trouve que ouais, le regard, il faut se regarder, je pense.
Est-ce que vous avez une idée du troisième choix?
On peut dire le texte très beau de Natalia Ginzburg.
J'en étais sûre.
Ça vous va?
On va d'abord écouter sa voix.
Quand j'étais jeune et que j'ai commencé à écrire, je désirais très fort pouvoir être changé en homme. C'est-à-dire que j'avais peur des soi-disant défauts des femmes, et je les ai tous, le manque d'objectivité, le sentimentalisme, etc. Petit à petit, avec les années, j'ai compris que la condition féminine devait être acceptée. Tu ne peux pas écrire en te sentant différent de ce que tu es ou en faisant semblant d'être autre chose que ce que tu es. Moi, je connais des histoires de femmes. Je ne sais raconter que des histoires de femmes. Dans mes livres, la première personne qui parle est presque toujours une femme et je crois que je ne peux pas écrire avec un je masculin. De la même manière que je ne pourrais pas écrire en me faisant passer pour une paysanne ou une ouvrière, ce que je ne suis pas et que je ne connais pas.
Il y a eu la guerre, et les gens ont vu s'écrouler tant de maisons qu'à présent, ils ne se sentent plus à l'abri dans leur maison, qui autrefois était sûre et tranquille. C'est une chose dont on ne guérit pas. Les années passeront, mais nous ne guérirons jamais. Il se peut que nous ayons de nouveau sur notre table une lampe et un petit vase avec des fleurs et les portraits de nos proches, mais nous ne croyons plus à ces choses-là parce que, une fois déjà, nous avons dû les abandonner à l'improviste ou nous les avons vainement cherchées dans les décombres. Il est inutile de croire que nous pouvons guérir de 20 années comme celles que nous avons passées. Celui d'entre nous qui a été persécuté ne retrouvera plus jamais la paix. Un coup de sonnette nocturne ne peut signifier pour nous que le mot « police ». Et il est inutile de nous dire et de nous répéter que derrière le mot police, il y a peut-être, à présent, des visages amis auxquels nous pouvons demander aide et assistance. Ce mot provoque toujours en nous la méfiance et la peur. Si je regarde mes enfants endormis, je pense avec soulagement que je n'aurai pas à les réveiller pendant la nuit pour fuir. Mais ce n'est pas un soulagement total et profond. Il me semble toujours que, un jour ou l'autre, nous devrons de nouveau nous lever pendant la nuit et fuir, en laissant tout derrière nous. Les chambres tranquilles, et les lettres, et les souvenirs, et les vêtements. Une fois subie, l'expérience du malheur ne s'oublie plus. Celui qui a vu s'écrouler les maisons sait trop clairement quels biens fragiles sont les vases de fleurs, les tableaux, les murs blancs. Il sait trop bien de quoi est faite une maison. Une maison est faite de briques et de chaux et peut s'écrouler. Une maison n'est pas très solide. Elle peut s'écrouler d'une minute à l'autre. Derrière les paisibles petits vases de fleurs, derrière les théières, les tapis, les parquets encaustiqués, il y a l'autre visage de la maison, l'atroce visage de la maison écroulée. Nous ne guérirons plus de cette guerre. C'est inutile. Nous ne serons jamais plus des gens sereins, des gens qui réfléchissent et s'instruisent et composent leur vie en paix. Voyez ce qui a été fait de nos maisons, voyez ce qui a été fait de nous-mêmes. Nous ne serons plus jamais des gens tranquilles.
Un texte de 1962 qu'on lit ici dans la traduction d'Adriana Salem, paru aux éditions Epsilon en 2018. Les petites vertus, Natalia Ginzburg, c'est le titre de ce recueil. Et vous avez lu un texte qui s'appelle Le fils de l'homme, Raphaël. Tout à l'heure, vous disiez l'exil, il est tout près, c'est juste la génération de mes parents. Mm-hmm. Ils sont tous les deux ont vécu un arrachement à leur terre et il y a quelque chose de leur vie qui est marqué par ça. Mm-hmm. Et Ginzburg dit que voilà, ça c'est inoubliable en fait. La vie, elle est marquée par le fait d'avoir dû un jour partir de chez soi.
Alors là, oui, c'est chose de la guerre, évidemment. Ensuite, je pense qu'il y a ça partout chez tout le monde. Tout le monde ressent cette chose à un moment donné. Ça peut être un incendie, ça peut être un accident, ça peut être quelque chose. C'est l'envers du décor, la chose paisible du monde.
Et de la maison,
la chose la plus protectrice, où on est dans ce canapé merveilleux avec ce bébé en lisant Les Hauts de Hurlevent. À un moment donné, tout est si fragile, quoi, voilà. Et c'est cette fragilité qui est racontée dans ce texte qui est magnifique. C'est splendide de dire que derrière les théières, les tapis, les parquets, il y a l'autre visage de la maison, quoi. C'est magnifique.
Mais c'est quand même, quand vous dites oui, c'est tout, partout, tout le monde, bien sûr, la vie réserve d'atroces surprises à tout, partout, tout le monde. Mais en même temps, c'est pas pareil. Ce que dit Ginzburg aussi, c'est que d'avoir vécu la guerre fait qu'on n'entendra plus jamais le mot police. De regarder un enfant et de se dire, ah tiens, cette nuit, c'est tranquille, je n'aurai probablement pas à le réveiller pour partir. Mmh. C'est quand même d'avoir ancré en soi quelque chose d'une expérience qui transforme l'expérience du présent. C'est pas tout à fait pareil que
je trouve ce texte très beau, mais bon, moi j'ai pas du tout connu ces expériences-là. Moi j'ai eu une vie, je suis né dans une époque de paix, mais c'est vrai que j'ai ça en moi. Quand j'étais petit, souvent je me préparais le matin en me disant il faut que je sois prêt à partir. Voilà, je me disais à 6h30 du mat, je me dis bon, au moins j'aurais déjà mis mon pull, mes chaussures et mon t-shirt si on vient me chercher. C'est pas rien.
On cherchait tout à l'heure les voies qu'avait pris la transmission d'une certaine histoire familiale. C'est pas rien quand on est enfant et qu'on se dit, en tout cas, j'ai les bonnes baskets pour courir.
C'est ça.
Comment est-ce que vous avez découvert Natalia Ginzburg ?
Valeria Bruni Tedeschi qui m'a offert ce livre un jour justement de tourment.
On n'a pas mentionné qu'elle était italienne.
Elle qui est italienne, oui. Et un jour de tourment. Elle m'a offert ce livre, Les Petites Vertus, qui est magnifique. C'est un recueil de textes à des années publiés dans des journaux, à des années très différentes. Et il y a des textes sur l'inspiration, il y a des textes sur la guerre, il y a des textes sur elle et son mari qui sont bouleversants. Bon, moi, je pense à Valéria à chaque fois que je lis Natalia Ginzburg. J'ai l'impression que les deux personnes se confondent d'une certaine manière.
C'est vrai.
Ouais, un petit peu. Déjà, même j'entendais sa voix. J'ai l'impression que. Voilà, c'est une amie chérie qui m'a offert ça un jour à un déjeuner. Voilà, c'est trop sympa.
On entendait sa voix à Ginsberg d'ailleurs, et elle parlait de son impossibilité à user d'un jeu d'un autre genre que le genre féminin, qu'il y avait quelque chose qui s'imposait pour elle. Oui, elle écrivait des histoires de femmes au sens très singulier du terme. Vous qui pouvez écrire des chansons et des textes littéraires, Raphaël, est-ce que c'est une question que vous vous posez? Comment vous la posez,
cette question-là? Tout le temps, on la pose tout le temps, tout le temps. J'ai écrit un certain nombre de nouvelles dont les personnages principaux sont des femmes, parfois à la première personne, et je me pose la question de la légitimité de à chaque fois, quoi. Bon, après...
En même temps, c'est la liberté de la littérature.
Exactement, c'est la liberté de la littérature. Là, j'écris un roman et une novella. Dans la novella, le personnage principal, pareil, c'est le journal d'une femme. Je suis par moments un peu troublé en me disant est-ce que j'ai la capacité de... Ou même la légitimité, même pas la capacité, je sais pas. Et des fois, je me dis, je devrais parler de ce que je connais le mieux, mais aussi, ce qui est tellement agréable, c'est d'être projeté dans un autre monde, quoi, et de pouvoir être dans les pompes d'un autre. Parce que dès que je suis trop près, trop proche de l'autofiction, je m'écœure, quoi, moi-même. Je pourrais pas écrire comme des écrivains que j'adore, des Carrère ou des gens comme ça que j'admire énormément, mais j'ai besoin de m'éloigner de moi-même pour écrire, j'ai l'impression. Sinon, je m'assèche.
Quatrième choix, on va vers qui alors?
On va à Bulgakov. Les temps des patriarches.
Vous avez dit que ça, c'était un livre de l'adolescence,
oui.
C'est ça?
Oui. C'est un livre de l'adolescence. C'est
Le aussi Maître et Marguerite.
Le Maître et Marguerite de Bulgakov. C'est aussi un livre sûrement familial. Moi, ma grand-mère était née à Odessa. Et toute sa famille venait de là-bas, quoi, d'Ukraine. Ils ont dû fuir la Russie soviétique avec des séparations terribles, déchirantes, en quittant son père qu'elle retrouvait 6 ans ou 7 ans plus tard sur le quai de la gare de l'Est ou gare du Nord à Paris, j'imagine gare du Nord plutôt. Et ce livre parle de l'irruption de l'irrationnel et du fantastique dans la Russie stalinienne, avec des écrivains officiels du parti ou je ne sais quoi.
Et vous faites le lien quand
ils sont pris à partie par le diable en personne.
Vous faites le lien quand vous découvrez ce livre à l'adolescence avec l'histoire de votre famille?
Oui.
Ouais.
Ouais, ouais, je fais le lien. Bien sûr, parce que je connais cette histoire de très près, quoi. Quand on était petit, on allait déjeuner presque tous les dimanches à l'église de la rue Daru. Là, il y avait un traiteur russe avec des vieilles babouchkas, là, et des types qui jouaient de la mandoline. Et on était encore dans ce monde-là. Ma grand-mère a gardé l'accent russe, a coupé au couteau jusqu'à la fin de sa vie. Elle a vécu 50 ans en France. Et oui, on fait le lien, bien sûr.
Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov.
Il était ukrainien, Bulgakov, c'est ça? Ou il était russe?
Il est né à Kiev, en 1891.
C'est ukrainien, c'est ça.
Enfin, c'est l'Empire russe à l'époque, mais...
Oui, 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 tout à fait. Ça s'appelle « Ne parlez jamais à des inconnus ». Premier chapitre, le plus beau premier chapitre de l'histoire de la littérature, peut-être. Au déclin d'une chaude journée de printemps, sur la promenade de l'étang du Patriarche, apparurent deux citoyens. Le premier, qui paraissait âgé d'une quarantaine d'années, était vêtu d'un léger complet d'été gris clair. Il avait la taille petite mais bien prise, voire replète. Le cheveu brun, quoique rare, et son visage soigneusement rasé, s'ornait d'une paire de lunettes de dimension prodigieuse à monture d'écailles noires. Quant à son chapeau, de qualité fort convenable, il le tenait froissé dans sa main, comme un de ces beignets qu'on achète au coin des rues. Son compagnon, un jeune homme de forte carrure, dont les cheveux roux s'échappaient en broussailles d'une casquette à carreaux négligemment rejetée sur la nuque, portait une chemise de cow-boy, un pantalon blanc fripé et des espadrilles noires. Le premier n'était autre que Mikhail Alexandrovitch Berlioz, rédacteur en chef d'une épaisse revue littéraire et président de l'une des plus considérables associations littéraires de Moscou, appelée en abrégé « Massolite ». Quant au jeune homme, c'était le poète Ivan Nikolaevitch Ponyriev, plus connu sous le pseudonyme de Biesdomny. Ayant gagné les ombrages de tilleuls à peine verdissants, les deux écrivains eurent pour premier soin de se précipiter vers une baraque peinture lurée dont le fronton portait l'inscription « Bière, eau minérale ». C'est ici qu'il convient de noter la première étrangeté de cette terrible soirée de mai. Non seulement autour de la baraque, mais tout au long de l'allée parallèle à la rue, Malaya Bronaya, il n'y avait absolument personne. à une heure où, semble-t-il, l'air des rues de Moscou surchauffé était devenu irrespirable, où, quelque part au-delà de la ceinture Sadovaya, le soleil s'enfonçait dans une brume de fournaise. Personne ne se promenait sous les tilleuls, personne n'était venu s'asseoir sur les bancs, l'allée était déserte. « Donnez-moi de l'eau de narzan, » demanda Berlioz à la tenancière du kiosque. « Il n'y en a pas, » répondit-elle en prenant on ne sait pourquoi un air offensé. « Vous avez de la bière ?» s'informa Biesdomny d'une voix sifflante. « On la livre ce soir, » répondit la femme. « Qu'est-ce que vous avez alors ?» demanda Berlioz. « Du jus d'abricot, mais il est tiède, » dit la femme. « Bon, bon, donnez, donnez, donnez. » En coulant dans les verres, le jus d'abricot fournit une abondante mousse jaune et l'air ambiant se mit à sentir le coiffeur. Dès qu'ils eurent bu, les deux hommes de lettres furent pris de hoquet. Ils payèrent et allèrent s'asseoir sur un banc, le dos tourné à la rue Bronaïa. C'est alors que survint la seconde étrangeté, concernant d'ailleurs le seul Berlioz. Son hoquet s'arrêta net. Son cœur cogna un grand coup dans sa poitrine, puis, semble-t-il, disparut soudain, envolé on ne sait où. Pas mal, ça. Hein.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce livre-là ?
Moi, je dis quand même que l'air ambiant qui se met à sentir le coiffeur, c'est pas mal, ça. Ça me plaît beaucoup. C'est ça, c'est le fantastique, quoi. C'est la magie, c'est dans un monde... Déjà, c'est profondément politique, quand même. C'est dans un monde si rationnel, censé être si rationnel et si... l'intervention du diable en personne et d'un chat maléfique qui décapite des gens, qui envoie tout le monde à l'asile psychiatrique, c'est réjouissant, quoi. Voilà, c'est comme un Tarantino, c'est fantastiquement réjouissant. C'est la punition des méchants, des pédants, des lâches, enfin voilà,
Ça fait du bien quand ils sont punis dans la littérature.
Ça fait beaucoup de bien, ouais. Ça fait beaucoup de bien. Et puis c'est tellement drôle, c'est tellement jouissif, c'est tellement sans limite. Ça doit être on a l'impression que c'est un livre de presque psychédélique, quoi. Et en même temps avec cette folie qu'on retrouve chez Gogol, quoi. Voilà, comme un type qui trouve un nez dans sa soupe, quoi. L'irruption du fantastique. Et moi, c'est ce que je préfère. D'ailleurs, il y a ça chez Kafka aussi, hein, vraiment. Alors, c'est plus cérébral chez Kafka. C'est moins ludique. Mais je trouve que...
Quoique,
ouais. Mais que l'irruption du fantastique, ça me réjouit. Même si je ne crois pas aux fantômes ou aux spectres ou dans la vraie vie, je suis assez cartésien, mais en littérature ou au théâtre, il n'y a rien que j'aime plus, quoi. Ou même au cinéma.
Vous aviez dit tout à l'heure, Raphaël, que vous n'étiez pas suffisamment rapide lecteur pour suivre les productions de Joyce Carol Oates, et c'est le dernier choix que vous avez fait. Vous avez choisi Blonde,
oui.
Un texte de Joyce Carol Oates paru en 2000, comme oui. Votre premier disque.
Ah oui, tout à fait, c'est vrai.
On écoute une archive de la romancière américaine.
Je me suis d'abord intéressée à Norma Jean Baker en lisant des choses sur elle. Je me suis d'abord concentrée sur son enfance, sur la relation qui l'unissait à sa mère, qui m'a semblé être une relation, une forme d'archétype entre de la relation qui unit une mère et sa fille. Dans ses efforts désespérés qu'elle fait pour plaire à sa mère, pour être aimée d'elle-même. Et elle est tellement concentrée vers cet effort de lui faire plaisir. Elle devient finalement la personnalité idéale pour devenir une actrice. Et puis, après, je me suis intéressée à Marilyn Monroe. Je me suis intéressée à ce qu'elle représentait. Elle représentait une sorte de catégorie de femmes. De femmes qui travaillent beaucoup, qui sont en même temps des figures publiques. Marilyn Monroe l'a toujours rabaissée à une femme glamour, mais elle n'a jamais eu le respect qu'on lui devait pour son travail. Moi, j'ai voulu redresser cette injustice qui lui était faite.
Alors vint la mort, le long du boulevard, dans la lumière sépia du crépuscule. Alors vint la mort à tire-d'aile, comme dans les dessins animés pour enfants, sur sa sobre et lourde bicyclette de coursier. Alors vint la mort à coup sûr, la mort inévitable, la mort pressée, La mort pédalant à tout rompre, la mort transportant dans son solide panier grillagé derrière la selle un paquet marqué « Livraison express, fragile ». Alors vint la mort sur sa vilaine bicyclette, se frayant en experte son chemin dans le flot de la circulation, à l'intersection de Wilshire et de la Brea, où, en raison de travaux, les deux voies de Wilshire dans la direction ouest s'étranglaient en une. La mort si preste, la mort qui faisait des pieds de nez à des klaxonneurs entre deux âges, la mort en train de rire, va te faire foutre mec, et toi donc. C'était Bugs Bunny dépassant les rutilantes carrosseries d'onéreuses automobiles, sorti tout droit de chez le concessionnaire. Alors vint la mort, pas gênée par l'air exsangue et brouillé de Los Angeles. L'air chaud et radioactif de la Californie du Sud où elle était née. Oui, j'ai vu la mort, j'avais rêvé d'elle la veille, et des nuits auparavant, je n'avais pas peur. Alors vint la mort ô combien prosaïque, la mort courbée sur le guidon moucheté de rouille d'une bicyclette laide mais solide. Alors vint la mort en t-shirt Caltech lavé mais pas repassé, short kaki et mocassin sans soquette. La mort mollet galbé, jambes poilues, colonne vertébrale sinueuse, vertèbres saillantes. La mort aux boutons d'acné adolescent, la mort choquée, chavirait par les coups de cimeterre du soleil qui ricochait sur les pare-brises et les chromes. Reconcert de klaxon dans le sillon flamboyant de la mort. La mort cheveux en brosse hérissés, la mort chewing-gum. La mort tellement routinière, 5 jours par semaine, samedi, dimanche, moyennant supplément. Hollywood Messenger Service. La mort livrant en personne ses paquets cadeaux. Alors, sans prévenir, la mort arriva à Brentwood. La mort fila dans les rues résidentielles de Brentwood, étroites, quasi désertes en août. Ici, à Brentwood, la touchante futilité des pelouses méticuleusement entretenues, devant lesquelles la mort pédalait ardemment. Alta Vista, Campo, Jacumba, Bridman, Los Olivos, jusqu'à Fifth Helena Drive, un cul-de-sac, palmiers, bougainvillées, rosiers grimpants, floraison rouge, une odeur de fleurs pourrissantes, une odeur d'herbes brûlées par le soleil, des jardins enclos, des glycines, des rues en demi-cercle, des fenêtres aux stores dont les lattes hermétiquement jointes repoussent les assauts du soleil. La mort porteuse d'un paquet cadeau sans réponse souhaitée à l'intention de M.M., occupante actuelle, du 1235 Fifth Helena Drive, Brentwood, Californie, USA, Terre.
M.M., c'est Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe, ouais.
Raphaël, à qui Joyce Carol Oates consacre ce livre Blonde, paru en 2000, vous avez lu la traduction française de Claude Seban. Pourquoi vous avez choisi ce texte de Oates ?
Un début comme ça, quand même, c'est une folie. Mmh. C'est fou. Quand je vois, moi, je fais partie de certains jurys de prix littéraires, je lis toutes les choses de la rentrée, je dois lire 60 livres de l'année par an. Un début comme ça, on s'en met pas, quoi. Je veux dire, il faut prendre sa matinée, aller marcher. On dirait presque un poème de Boris Vian, quoi. Comme ça, je voudrais pas crever sans avoir vu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. C'est d'une folie poétique, d'un niveau. Enfin, moi, ça me donne envie de pleurer tellement c'est beau, cette chose-là. Un mélange de poésie sublime et de choses très triviales, très simples, très... Ah, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Et après, le livre est trop beau. Effectivement, moi aussi, c'est le rapport à la mer qui m'intéresse beaucoup.
Chez Monroe ?
Ouais, chez Monroe. Et puis dans ce livre, il y a une scène au début où il y a un incendie, des grands incendies de Los Angeles, incroyable. Et la mère, au lieu de fuir avec son enfant, elles prennent la voiture toutes les deux et elles vont vers les maisons des stars qui sont en train de brûler parce qu'elle veut s'approcher du brasier, parce qu'elle a fait croire à Marilyn que son père était une star hollywoodienne dont elle ne veut pas dire le nom. Elle est arrêtée par des flics. Ils lui disent « Madame, vous pouvez pas, il est 3h du matin, elle est en nuisette. » Enfin bon, voilà, c'est... Elle fait croire au flic, elle essaye d'être un peu enjôleuse. Le flic ne veut pas la laisser passer parce qu'il voit qu'on n'a rien à faire dans une zone comme ça avec une enfant à moitié endormie. Et elle murmure au flic, elle dit « I want you to shoot me ». Je voudrais que vous me descendiez. Quoi. C'est une violence et une folie. Quoi. C'est un livre sur la folie, je trouve. Ouais, incroyable. Extraordinaire.
Merci beaucoup, Raphaël.
Merci.
D'avoir partagé votre bibliothèque.
Merci.
Pour le Book Club de France Culture. On se quitte avec Une autre vie.
Elle aime toujours un homme. différent d'autres enfants. Une autre vie dans l'écran. Elle pleure, elle brûle tout. Chaque jour se dessine la fin du film. Indélébile, la fin du film.
Au son aujourd'hui, c'était Alexandre Dang, à la réalisation Anna Holweck. Pour retrouver tous les textes évoqués par Raphaël, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. Un grand merci à toute l'équipe de l'émission et tout particulièrement aujourd'hui à Garance Roubieux. Pour continuer la conversation, rendez-vous sur le compte Instagram du Book Club.
Le cœur, chaque fois différent. En une heure, ce qu'on voit, ce qui tient dedans. L'immensité, les sentiments, l'immensité des sentiments, l'immensité des sentiments, l'immensité des sentiments, le cœur chaque fois différent, l'immensité des sentiments. Ses lèvres bougent, est-ce qu'elle m'entend ?